Seigneur, merci pour ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. C'est le psalmiste qui disait, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Aide-nous à avoir les yeux ouverts, le cœur disponible pour entendre ta parole, pour la comprendre et la vivre pour ta gloire. Seigneur, conduis-nous dans l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le livre de Romains, Épître aux Romains, et je propose une lecture au chapitre 15, du premier verset au sixième verset. Simon Pierre paniquait déjà, disait, ça y est, verset 15, j'ai pas vu ça, moi. Romains 15, de 1 à 6. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher à ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Deux devoirs, deux mots d'ordre, deux exigences, et puis deux ressources, deux moyens pour arriver à atteindre ces devoirs, et puis une finalité, un but. Voilà les choses que j'aimerais partager brièvement ce matin. Quand on fait un projet dans la vie, on fait aucun projet pour rater. Hein. Quelqu'un commence-t-il un projet en se disant « je vais faire un projet pour partir en voyage, mais je ferai tout pour rater mon avion, je ferai tout pour que ça ne se passe pas bien. » Jamais. On planifie, on réfléchit, on met les choses en place. Pourquoi ? Parce qu'on a un but, on veut atteindre un objectif. C'est ce que vous allez voir transparaître à travers ce texte. Le chapitre 14 et 15 de l'épître de Paul aux Romains évoquent les défis auxquels toute communauté chrétienne est confrontée. Dans toute communauté chrétienne, en l'occurrence pour nous, la communauté chrétienne, c'est l'église locale aujourd'hui, et bien dans toute communauté, le vivre ensemble n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que les chrétiens sont différents. Les gens sont différents les uns des autres. Et cette différence entraîne des tensions, entraîne des frictions, des conflits. Et dans ces deux chapitres, il est vraiment question de cela. Il est particulièrement question de différence entre les chrétiens qui n'arrivent pas à abandonner les exigences de la loi, comme par exemple les restrictions alimentaires, comme par exemple le respect du sabbat ou des jours particuliers, etc. Bref, les gens qui n'arrivent pas à abandonner cette conception selon laquelle il faut que je fasse des efforts personnels pour mériter d'être apprécié par Dieu, d'un côté, et les gens qui ont compris la puissance de la grâce et qui vivent selon la grâce. Ce matin, j'aimerais que nous puissions, alors que nous allons commencer l'année, peut-être avoir tout au long de cette année un devoir personnel à réaliser que je vais présenter ici. Et j'aimerais bien que ces devoirs-là nous conduisent tout au long de cette année et que ça soit quelque chose qui nous aide dans nos relations les uns les autres. Alors, les chrétiens qui ont du mal à abandonner la loi, qui ont du mal, ça c'était à l'époque de Paul, il y avait les judaïsants, donc ceux qui se sont convertis au judaïsme, enfin qui viennent du judaïsme, qui sont convertis au christianisme, qui avaient du mal à abandonner, par exemple, le fait de ne pas manger toutes les nourritures, le fait de de ne pas observer le sabbat, le fait de ne pas regarder tout ce qui est les pratiques des dîmes, etc. Toutes ces choses qui se font selon la loi, eh bien, ils avaient du mal à abandonner cela. Et tous ces chrétiens étaient considérés comme des chrétiens faibles, qui avaient la foi faible. C'est là la source des problèmes. Parce que ceux qui avaient compris la grâce de Dieu avaient plutôt une attitude méprisante à l'égard de cela. Ils les regardaient en disant, ceux-là, ils n'ont rien compris. On les regardait comme des gens faibles. Aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes plus soumis à cette faiblesse-là. Mais entre nous, il y a toujours encore des chrétiens qui ont des faiblesses. Qui ont des habitudes dont ils ne savent pas se défaire. Qui ont des façons d'être qui ne sont pas toujours les façons qui honorent Dieu. Et la démarche de Paul, dans le texte que nous venons de lire, la démarche de Paul consiste à montrer comment vivre dans ce rapport-là, entre les forts et les faibles. Comment vivre ce rapport-là? Comment être avec les autres? Et donc Paul va donner deux mots d'ordre. Et c'est ce mot d'ordre-là, j'aimerais que ce soit aussi des devoirs pour nous. Premier mot d'ordre, verset 1. Tu peux remettre le texte. Premier mot d'ordre, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons à supporter, nous pourrions, si nous voulons bien supporter, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Voilà le premier point. Supporter les faiblesses des faibles dans la foi, de ceux qui ont du mal avec leur vie chrétienne, avec leur démarche chrétienne. Vous voyez, deux choses. Nous. De quel nous parle-t-il? On a envie de s'intégrer dans le nous, mais en même temps, on se dit fort. Suis-je fort? Suis-je fort? Ici, l'idée, c'est justement pas la force dans le sens de quelqu'un qui est fort parce que physiquement ou parce que il a un bon niveau spirituel. C'est fort dans le sens de quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu, qui marche selon ce que Dieu demande et qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas d'hésitation, qui n'a pas de crainte, qui n'a pas de questionnements où il est bloqué. C'est quelqu'un qui se sent apte à faire les choses. Eh bien, celui-là qui est comme ça, il n'a pas à juger celui qui hésite, celui qui a des scrupules, celui qui se sent pas toujours en forme. Il n'a pas à le juger. Au contraire, il doit supporter ses faiblesses. Le rôle donc de ceux qui sont forts est de porter avec patience et amour les infirmités du faible, les scrupules par rapport aux exigences de la loi, toutes les inconséquences. Vous savez, quand on est faible, on peut commettre des erreurs par peur, par hésitation. Toutes ces inconséquences, les préjugés, les erreurs qui naissent de la faiblesse dans la foi. Ceux qui sont forts doivent supporter cela avec patience et amour. Il ne s'agit donc pas de considérer seulement les forts, les gens qui sont bien, mais de considérer que même ceux-là qui ont du mal dans nos communautés, eh bien, ça reste des frères et des sœurs à part entière. Le rôle du chrétien, donc, est de accepter cela et les accepter et montrer qu'ils ne sont pas jugés, qu'ils sont aimés, qu'ils sont appréciés. Supporter la faiblesse du faible équivaut à tolérer cette présence, cette personne, l'accepter comme elle est, malgré les faiblesses, et agir avec. En agissant de la sorte, d'après ce texte, nous montrons que nous ne sommes pas des égoïstes. Puisque le réflexe naturel de tout chrétien, de tout être humain d'ailleurs, c'est d'abord de penser à soi-même, de penser à ses propres intérêts, et de se dire, ben, si moi je veux bien, l'autre, bon, je m'en occuperai si jamais, mais tant pis. Bon. Mais ce texte nous exhorte à manifester que nous ne sommes pas égoïstes en ayant un rapport où on essaye plutôt, non pas de vivre selon notre propre plaisir, mais de vivre en montrant une disposition de cœur qui tient compte, qui a de la considération pour ceux qui ont du mal. Cela éviterait évidemment dans l'Église des jugements et des frictions, des gens qui se sentent jugés parce qu'ils sont différents. Première exigence, premier devoir, je ne vais pas être long. Deuxième exigence, deuxième devoir, le texte continue, verset 2. Que chacun de nous plaise au prochain en vue de ce qui est bien, pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Littéralement, ça veut dire que chacun de nous fasse en sorte que l'autre, qu'on fasse plaisir à l'autre, mais qu'on fasse plaisir à l'autre pour son bien à lui. Pas pour moi, mais pour lui. Et je veux lui faire plaisir, pourquoi ? Pour lui permettre de grandir spirituellement. C'est mon travail. Je suis là pour aider mon frère, ma sœur, à grandir spirituellement. Et le chemin que je dois choisir, c'est pas le chemin de dire, assis-toi ici. Toi là, tu... Non, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas les reproches. Le chemin, ce n'est pas le fait de lui dire, allez, mets-toi derrière moi, fais ce que je fais. Non. Le chemin, c'est de partir de ce qui lui fait plaisir à la personne. De ce que la personne aime. De ce qui lui fait plaisir, on le prend à partir de ce qui lui fait plaisir et on l'emmène à grandir spirituellement. On vise son bien. Et cette tâche n'est pas seulement la tâche du chrétien par rapport à un autre qui est faible. C'est la tâche de tous les chrétiens. Souvenez-vous, lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu vient chercher, il demande Caïn, où es-tu? Caïn s'explique un peu, puis il dit, mais qu'as-tu fait? Où est ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Mais à la manière dont Dieu réagit, la réponse est oui, tu es le gardien de ton frère. Le christianisme, c'est cela. C'est pas je, c'est tu. C'est tu, c'est l'autre, dans un élan altruiste. Je dois aimer l'autre, non pas pour moi. Je dois pas aimer l'autre pour que l'autre voie à quel point je l'aime et qu'il m'apprécie. C'est pas ça. Je dois aimer l'autre pour ce qu'il est et pour son bien. Je dois viser son bien. Ce texte nous exhorte donc à rechercher ce qui fait plaisir à l'autre, afin que par ce chemin-là, j'aide l'autre à grandir spirituellement. C'est de l'altruisme. Et l'altruisme est une forme d'amour qui fait partie de l'amour agapé. Vous savez qu'il y a quatre sortes d'amour, hein? Enfin, selon les Grecs. Hein? Il y a l'amour philéo, l'amour entre proches, hein, les gens de la même famille, les amis, l'entourage, les gens qui sont familiers. Et puis, il y a l'amour entre les hommes, l'homme et la femme, enfin, dans le mariage. Et puis, il y a l'amour dans le sens plutôt des choses qui sont pas très proches de nous, mais qui sont familières. Par exemple, je sais pas moi, l'amour à l'égard de Michael Jackson, c'est pas mon frère, c'est pas mon ami, mais je l'aime bien. Voilà, je me sens même tellement proche. Et il y a même des gens qui sont prêts à acheter des livres, des bouquins, qui connaissent la vie de Michael Jackson jusqu'au détail près, hein, qui achètent tout ce que Michael lâche dans la nature. Ils vont courir, ils vont mettre des centaines, des milliers d'euros pour acheter ça, pour avoir Elvis Presley, vous voyez, hein. Enfin bref, il y en a tellement comme ça que les gens aiment. L'amour à l'égard de son pays, à l'égard d'une peinture, d'une œuvre, etc. Ça, c'est une autre forme d'amour, le troisième. Et le quatrième, La quatrième forme d'amour, pardon, c'est l'amour agapé, c'est l'amour comme Dieu. Cet amour, Dieu n'aime pas avec des conditions. Dieu ne met pas des conditions pour aimer. Dieu aime sans condition. Dieu aime sans qu'il cherche un profit dans l'amour. Il aime, point barre. Et c'est de cet amour-là qu'il s'agit ici. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est la recherche du bien de l'autre. Mais je ne cherche pas en tant que chrétien le bien de l'autre juste pour le bien de l'autre. Si je recherche le bien de l'autre, c'est pour que l'autre grandisse spirituellement. Autrement dit, que l'autre se rapproche de plus en plus de Dieu. Pour que l'autre considère Dieu comme quelqu'un de respectable, d'adorable, qui mérite la révérence et qui mérite d'être suivi, d'être honoré dans la vie. C'est le but. Évidemment, c'est pas que je fais plaisir à l'autre pour que, voilà, c'est tout, Seigneur, je l'ai fait plaisir, c'est tout. Non, c'est pour que je le fasse plaisir parce que je veux que cette personne aime Dieu et avance avec Dieu. Voilà deux tâches qui sont des tâches qui ne sont pas faciles. Parce que supporter parfois l'insupportable, c'est pas évident. Et plus que cela encore, supporter déjà quelqu'un d'insupportable, mais avoir à l'égard de cette personne-là, cet élan qui consiste à lui témoigner de l'amour en s'intéressant à lui, en lui faisant plaisir, pour le faire grandir spirituellement, c'est encore pire. C'est encore difficile. Cela exige des sacrifices. Cela exige de la souffrance. Cela exige de l'abnégation. Mais l'amour, n'est-ce pas? C'est aussi se sacrifier, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est livré, il s'est offert, il s'est donné. Il est mort, il s'est sacrifié. Et c'est cela que le texte de verset 3 dit. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est notre modèle, c'est notre exemple. Je dois me donner ces deux devoirs-là à l'instar du Seigneur Jésus-Christ, en suivant son modèle, lui qui était prêt à souffrir pour pouvoir aider les gens à avancer. Deux devoirs, deux ressources. Quels sont les moyens? Que dit ce texte à propos des moyens dont nous disposons? Je vous ai dit que ce n'est pas facile, mais quels sont les moyens? Alors, au verset 4, nous avons la première ressource. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Première ressource, la parole de Dieu. La parole de Dieu fonctionne comme un manuel d'utilisation. Vous savez, quand vous achetez un appareil, il n'est pas encore monté. Moi, je suis très maladroit pour ça. Hein. Même avec Ikea, j'échoue. Donc, peut-être que vous êtes plus adroit que moi. Mais voilà. Mais voilà, quand on achète un matériel, enfin un truc, un produit, un appareil, eh bien, on vous donne comment. Il y a un petit bouquin qui vous dit, il faut mettre la vis par là, il faut mettre ceci, cela. Eh bien, la parole de Dieu fonctionne comme ça aussi pour nous. Elle est comme un manuel d'utilisation. Mais fonctionne aussi comme un livre d'exhortation, d'encouragement, de conseils, de recommandations. Elle nous dit comment il faut faire pour pouvoir supporter les faibles, pour pouvoir rechercher le bien pour les autres. Comment faire pour les faire grandir spirituellement. La parole nous donne des exhortations, nous aide à cela. Et la parole de Dieu aussi est là pour nous guérir nos cœurs lorsque nous avons été dégoûtés dans nos efforts, lorsqu'on a été déboutés, lorsque la personne que nous aimons bien, que nous voulons aider, a été difficile, a été peut-être pénible pour nous. Où trouver des ressources? Où trouver l'amour pour continuer encore? C'est toujours dans la parole de Dieu, dans la consolation de la parole. La parole de Dieu est un outil qui nous sert. Elle nous trace la route de l'espérance. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup m'imaginer que la parole de Dieu est comme une espèce de GPS qui nous montre le chemin et qui nous conduit tout doucement sur ce chemin-là jusqu'à l'espérance. C'est notre manuel qui nous conduit jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la possession de tout ce que Dieu nous a promis. Ce matin, j'aimerais vous exhorter donc à trouver dans la parole de Dieu les exhortations, les mécanismes, les moyens qui vont permettre que vous puissiez avoir cette grâce-là. Deuxième moyen, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, la prière dans la foi au Dieu qui donne la force de persévérer et la paix. Mais nous devons prier dans une perspective précise, c'est de demander à Dieu de nous aider, nous d'abord, moi d'abord le premier, à vivre en plein accord avec les autres, à rechercher ce qui nous unit. Et lorsque je fais cette démarche-là, eh bien, je suis en train véritablement d'acquérir les moyens pour pouvoir avancer avec les autres. Deux ressources, et puis une finalité, je vais terminer avec cela. Le but de tout ce que Dieu nous demande à travers l'apôtre Paul, de ces deux devoirs, comme d'ailleurs le but de tout le chrétien, de toute communauté, de toute institution chrétienne, le but c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ici, c'est la gloire de Dieu manifestée dans l'amour et l'unité des enfants d'un même Père. C'est le but pour lequel nous devons accepter les faiblesses des faibles, pour lequel on doit travailler à faire plaisir aux autres dans le but de les faire grandir spirituellement. Donner la gloire à Dieu, c'est ce que Paul dit ailleurs quand il dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est une formule qui existe dans toute la Bible. Paul insiste énormément pour cela. Et moi, quand j'ai été jeune dans l'école des Jésuites où j'ai fait mes humanités, eh bien, j'étais toujours admiratif d'une formule en quatre lettres. A, M, D, G. C'est en latin. Ça veut dire ad maiorem Dei gloria. Ça veut dire pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est une formule qui est restée ma formule de vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je vise la plus grande gloire de Dieu. Parce que j'ai compris que c'est cela le but pour lequel nous sommes là sur la terre. J'espère, pour vous en tout cas cette année, que vous serez attentifs aux autres pour les aimer et les supporter, pour les porter dans vos prières, pour les aider à grandir. Vous ne serez pas de ceux qui vont critiquer les autres, qui vont voir que le mauvais côté, qui vont être fatigués de leur bêtise. Mais vous serez de ceux qui vont porter cela pour que les autres soient encouragés et se disent, waouh, je suis aimé, je vais faire un effort, je vais aller de l'avant parce que je ne suis pas jugé, je suis apprécié. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen.